Voilà, ce matin, j'ai à cœur de vous parler d'héritage. Il y a quelque temps, l'année passée, sauf erreur, l'année passée, j'étais au Mali, et puis je discute avec un jeune homme dans la rue, il me demande ce que je faisais par là, et puis je lui dis que je suis missionnaire. Et il me dit, ah bon, vous êtes chrétien? Qu'est-ce que vous croyez que je lui ai répondu? J'ai dit, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous mettez derrière ce mot et je vous dirai si je suis aligné à votre pensée. Parce que malheureusement, aujourd'hui, tu ne peux plus te dire, je suis chrétien et être fier d'être chrétien. Pourquoi? Parce que ce mot, il a été traîné dans la boue. Parce que tu rencontres des gens partout dans le monde, même chez nous. Des gens qui sont chrétiens et qui sont menteurs, voleurs, escrocs, adultères, quand c'est pas pédophiles et tout ce que tu veux. En Afrique en particulier, j'ai rencontré des pasteurs, des prédicateurs, des apôtres autoproclamés souvent, hein, qui sont de véritables truands. De véritables escrocs. Et leur mode opératoire, c'est Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que tu devais me donner ton troisième pilier. Non, mais non, non, mais vous ne vous imaginez pas. Vous ne vous imaginez pas. Et c'est pour ça, en discutant avec ce monsieur, je lui ai dit, mais. Je suis enfant de Dieu. Et il me dit, moi je suis esclave de Dieu. Bon, j'ai compris qu'il était musulman. Il m'a dit, vous avez votre religion, moi j'ai la mienne. J'ai dit, non, 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 vous avez votre religion, moi j'ai une relation avec Dieu. Et ma relation avec Dieu fait de moi un enfant de Dieu. Et c'est là qu'il me dit, moi je suis esclave de Dieu. Ah, j'ai dit, ça c'est intéressant, j'étais aussi esclave. Pendant 25 ans, j'étais esclave, pas de Dieu, esclave du péché. Mais j'étais un bon chrétien, alors que j'étais esclave du péché. J'étais un bon chrétien catholique. J'allais à la messe le dimanche matin, parfois dans des boîtes à fesses le samedi soir, et à la messe le dimanche matin, entre la fesse et la messe, tu changes juste une lettre, et ça rime en plus. Mais j'étais un bon chrétien. Parce que je suis né chrétien. À 3 semaines, on m'a mis quelques gouttes d'eau sur la tête. Je suis né chrétien. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu resituer les choses. Parce que dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, il nous a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était la lumière du monde, la lumière qui est venue dans le monde. Et les hommes n'ont pas accepté cette lumière, ont rejeté cette lumière. Parce que la lumière, elle dérange parfois. Parce que la lumière, quand elle va scruter dans les petits coins sombres, les petits coins d'ombre, ben, elle révèle ce qu'on avait voulu cacher. Donc les hommes ne l'ont pas accepté parce que la lumière dérange. Mais l'apôtre ajoute au verset 7, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole, Jésus, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et mes amis, c'est important de savoir où je me situe. Est-ce que je suis juste, est-ce que je fais partie des 3 et quelques milliards de chrétiens sur la terre qui sont chrétiens, qui sont affiliés à une église, à une religion quelconque, ou est-ce que je fais partie de cette minorité dans cette entité qui se définit comme enfant de Dieu? Et à mon sens, on a le droit de ne pas être d'accord, mais à mon sens, la différence est importante. Parce que si tu es juste chrétien, tu peux faire tout et n'importe quoi, tu trouveras toujours un chrétien qui aura fait pire. Et il ne faut, faut pas aller chercher bien loin parfois. Mais lorsque tu es enfant de Dieu, des choses que tu ne peux plus faire. Autrefois, vous étiez ténèbres, dit Paul. Autrefois. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Lorsque tu es enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que tu as compris que tu as changé de royaume. Dans le monde invisible, il y a deux royaumes qui s'affrontent. Le créateur, le destructeur. La lumière du monde, le prince des ténèbres. La vérité, le père du mensonge. Le rédempteur, l'accusateur. Le bon berger, le voleur, le destructeur. Tu ne peux pas être d'un côté et de l'autre. La source que tu es ne peut pas faire sortir de l'eau pure le dimanche matin entre 10h et 12h. Aujourd'hui, ça sera plutôt 15h parce que j'ai... ça risque d'être long. Non, c'est une blague. Et te permettre de l'eau un tout petit peu souillée durant la semaine. C'est pas possible, mes amis, on est d'un côté ou de l'autre. Alors oui, certes, on n'est jamais tout, voilà, exempt de tout péché. Mais il y a une différence entre les péchés que l'on peut commettre par inadvertance et la pratique du péché. Je sais très bien si je mens ou pas. Quand je remplis ma déclaration d'impôt, je sais très bien si je mens ou pas. J'ai été convoqué aux impôts il y a 2 ans, je crois. Je suis allé avec un sourire jusqu'aux oreilles. J'ai un truc là. J'ai dit au gars, je vais vous faire sourire, je vais vous montrer mon livre de comptes. Ça va vous faire sourire. Alors, ça, je ne sais pas si ça l'a fait sourire beaucoup. Je ne sais pas où vous classez, monsieur. Mais je suis serein. Voilà. Les fêtes, vous croyez, vous ne croyez pas. Voilà ce que je suis. Après, ils ont un peu le flair. Ils savent un peu discerner à qui ils ont affaire. Donc, ça n'a pas posé de problème pour moi. Mais ça commence par là. J'ai discuté avec des jeunes parfois. Avec mon épouse, cette année, on fête nos 40 ans de mariage. Et on est pas les seuls. Je pense qu'il y a des couples un peu, peut-être un peu plus, avec une longévité un peu plus importante que la nôtre, déjà. Mais c'est tellement extraordinaire. Les jeunes te disent, mais comment vous faites ? Ben, c'est pas très compliqué. Quand Jésus est au centre, il n'y a rien que je peux cacher à mon épouse. Des jeunes qui me disent, mais et ton épouse, elle connaît le mot de passe de ton téléphone. Mais c'est le béaba. Mais s'il y a des jeunes qui nous écoutent, il n'y en a pas beaucoup, mais ça sera retransmis sur Internet. Mais si ta fiancée ou ton fiancé ne te donne pas l'accès à ton téléphone, sauve-toi, reste célibataire, deviens bonne sœur ou je ne sais pas quoi, mais ne te marie pas avec un zigoto comme ça. Au secours. Au secours. La vérité, mes amis, on va en reparler tout à l'heure. Mais c'est tellement important de savoir, et je trouvais que c'était intéressant, je les ai cités brièvement tout à l'heure, mais comment se nomme le royaume des ténèbres ? Le destructeur, le père du mensonge, le prince des ténèbres, l'accusateur. Lorsque j'accuse avec ma bouche, l'accusation la plus courante, la plus répandue dans les couples, tu me saoules. Mais ça fait un moment avec mon épouse, on ne s'autorise plus jamais de prononcer ça. Parce que tu me saoules, c'est déjà une accusation. Tu es responsable de mon manque de maîtrise de moi-même. Tu, toi. Donc, le tu, il est valable quand il est dans le sens tu es la personne la plus extraordinaire. Tu m'as encore fait un repas qui me comble, ma femme. Tu es tellement incroyable. Je dis cette semaine, ne t'avise pas de me lâcher avant 30 ans. Minimum. Mais lorsque je parle en tu sur un ton de reproche, je suis déjà du côté de l'accusateur. C'est important, n'est-ce pas? C'est tellement important. L'héritage. Si je suis enfant de Dieu, je devrais connaître Romains 8, 15 à 17. Vous n'avez pas reçu, je ne sais pas si tu l'as, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers du Père, co-héritiers avec Christ. Et la dernière partie du verset, c'est là que ça coince un tout petit peu. Il y a un « si », cette petite note de musique là. « Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui ». On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Enfant de Dieu, on devient enfant parce qu'un jour on a choisi de passer des ténèbres à la lumière. On a choisi de passer de l'accusation à la rédemption. On a choisi de passer du mensonge à la vérité. On a choisi et on a vécu une nouvelle naissance. On est devenu enfant de Dieu. Mais si on est enfant, on est aussi héritier, les amis. Alors, je vous pose une question ce matin. Est-ce qu'il y a des héritiers de Dieu parmi nous? Il y en a quelques-uns. Alors, tu es héritier. Quel est ton héritage? Le royaume de Dieu. Oui. Alors, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux? Intéressant comme question. Pourquoi? Parce que le premier héritage, c'est l'héritage céleste. Ça, c'est le royaume des cieux. Lorsque tu te convertis, tu peux être le pire bandit, etc. Tu demandes pardon, tu te repens sincèrement. Tu passes des ténèbres à la lumière et tu reçois le salut éternel. Et c'est un cadeau. L'héritage céleste, c'est un cadeau que tu reçois instantanément. Mais il y a un héritage terrestre. Ça peut être pas mal parce que quand on se convertit, si on se convertit à quelques heures de la mort, bon, on n'a que besoin de l'héritage céleste, que besoin du cadeau, ça va très bien. Mais si on a quelques années devant nous et qu'on vit dans des difficultés comme visiblement j'ai entendu, on a besoin de découvrir l'héritage terrestre, n'est-ce pas? Et l'héritage terrestre, c'est, alors, en partie, tu l'as dit, le royaume de Dieu sur terre. Et alors, j'ai eu mon frère là-bas qui a répondu à la question, l'héritage terrestre, en un mot, c'est les promesses. Les promesses de Dieu, mais qui sont des promesses. Et les promesses, tu ne les reçois pas comme ça. Tu reçois une promesse, mais la promesse, c'est quelque chose que tu es appelé à conquérir. Parce que toutes les promesses de la parole, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu ne manques de rien? Est-ce que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie? Peut mieux faire, n'est-ce pas? Les promesses, mes amis, nous sont données. Quelqu'un en a compté 32 500 dans la parole, je n'ai pas vérifié. Mais il y a de nombreuses promesses dans la parole. Et c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez déjà percuté sur le verset de Hébreux 6, 11, 12. L'apôtre Paul dit, nous désirons, je vous fais tout, mais c'est la fin qui est intéressante, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Héritent les promesses. C'est intéressant, non, ça? Donc, si on prend juste le début et la fin du verset, nous désirons que chacun montre le même zèle, afin que vous imitiez, du verbe imiter, ceux qui, par la foi, et la persévérance hérite les promesses. Ça nous parle, ça, non? Ça veut dire que les promesses, elles sont pour nous. Si nous sommes nés de nouveau, si tu es né de nouveau, tu es devenu un enfant d'Abraham, héritier selon la promesse, héritier des promesses faites à Abraham pour sa descendance. Et les promesses, elles sont là-dedans. Promesse de guérison, promesse de que Dieu va pourvoir à nos besoins, il y en a tellement. Délivrance. Mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses, ça veut dire que les promesses, elles sont pour tout le monde. Mais tout le monde ne les hérite pas. Nous sommes tous héritiers, mais certains héritiers sont des héritiers sans héritage. Parce qu'il nous a manqué la foi et la persévérance, ou alors parce qu'il nous a manqué quelqu'un à imiter. C'est intéressant ça, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Parce que mes amis, on fonctionne comment? Par imitation. Si tu étais né en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec les parents que tu as eus, qui parlaient français ou allemand, j'en sais rien, et que tes parents te laissent là, aujourd'hui, tu parlerais le papou. Tu piperais pas un seul mot de français. Ça veut dire qu'on fonctionne par imitation. Dans la foi, c'est pareil. On fonctionne par imitation. C'est pour ça que c'est super important, c'est super... La parole de Dieu dit qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui enseignent, parce que les gens ils vont entendre ce que je dis, mais ce que je suis va crier beaucoup plus fort. Donc c'est important de pouvoir aussi savoir qui je vais imiter, n'est-ce pas? Et de trouver aussi des personnes dans la foi, des ministères peut-être, idéalement des pères spirituels que l'on pourra imiter. Et lorsqu'on a un âge ou comme on dit, quelques heures de vol déjà, d'avoir conscience que nous sommes des personnes que les autres vont imiter. Que je parle ou que je me taise, je suis un exemple. Si je suis un exemple d'intégrité, je vais transmettre l'intégrité. Si je suis un exemple de facilement faire un petit écart, bon, si lui le fait, je peux me permettre aussi, n'est-ce pas? C'est super, super important. Mes amis, je ne sais pas comment vous voyez le monde, mais si vous êtes, si vous suivez les informations, si vous êtes une personne à peu près normale, comme je pense l'être, aujourd'hui, quand on regarde le monde, on n'est pas enthousiaste. On n'est pas enthousiaste. Et il faut prendre conscience, et je crois que vraiment, vraiment, on est dans les derniers temps. Alors, ça fait 2000 ans qu'on annonce le retour du Seigneur. Les gens disent, ça fait tellement longtemps que vous l'annoncez. Oui, mais en fait, on est un peu plus près aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, n'est-ce pas? en tout état de cause. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans des temps particuliers. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas vu un bazar pareil au niveau planétaire. Et à tous les niveaux. Voilà, on va pas s'étendre. Mais j'aimerais vous rendre attentif que nous sommes en guerre spirituelle. Il y a vraiment une guerre spirituelle. Et dans cette guerre, si tu n'as pas l'armure du combattant, si tu n'es pas debout, armé, tu es déjà vaincu. Alors, on n'est pas en train de remettre en question le salut éternel. Voilà, c'est une question que j'aborde jamais. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, en tant qu'héritier, j'ai un rôle à jouer. Et le jour où j'arriverai devant l'Éternel, je veux juste entendre une phrase, c'est « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie. » Je veux juste pas passer à côté de la mission que Dieu m'a confiée. Et ça, c'est à mon avis la moindre des choses que je peux rendre à Jésus. Parce que lui, il a été au bout de sa mission pour moi. Il a été au bout, il a payé le prix jusqu'au bout. Et je trouve important de pouvoir dire, mais je veux réussir ma mission jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment tellement important. Je veux me revêtir de l'armure du combattant. Vous la connaissez, l'armure? Le casque du salut, le bouclier de la foi, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice. Et qu'est-ce qui tient toute cette armure? La ceinture de la vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, tu vas t'encoubler dans ton armure, au lieu d'avoir d'être en train de te battre, tu vas aller au combat comme ça, il va te manquer une main pour sortir l'épée. Si tu n'es pas dans la vérité, c'est déjà fini. C'est déjà terminé. Les chaussures à nos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix pour aller, et non pas forcément pour parler. Il y a des gens qui disent, « Oh, mais moi, monsieur, ben, vous savez, je ne suis pas à l'aise pour parler. » Qui t'a parlé de faire des grands discours? On a eu un témoignage cette semaine au groupe de maison. Ça m'a tellement encouragé. Une jeune fille dont je parle dans le livre Libéré, qui a vécu une magnifique conversion, qui, à 35 ans, avait prévenu ses parents, « Voilà, je suis dans l'année de mes 35 ans, je ne vais pas finir l'année. » Et son père, qui est un de mes amis d'enfance, il m'avait présenté ça comme ça, il m'a dit, « Voilà, j'ai eu 4 enfants, tu connais mon second fils qui s'est suicidé à l'âge de 19 ans, et Cindy m'a informée qu'elle finirait pas l'année. » Et j'attends le jour où j'aurai un téléphone ou l'arrivée de la police qui me dira, voilà, elle l'a fait. Et quand on a entendu ça, je suis allé, j'ai dit, mais écoute, moi je la connais juste de vue comme ça, ta fille, il faut me donner son numéro de téléphone. Je l'ai appelée, elle est venue à la maison, et puis on l'a invitée au groupe de maison, et son témoignage est dans le chapitre 19 ici. Et elle est venue au groupe de maison par politesse, parce qu'on l'a invitée, elle n'a pas osé dire non, et quand elle est venue là, Elle a été saisie. Elle disait, mais j'ai tout essayé, j'ai fait de l'occultisme, j'ai fait des trucs, des machins. Et Jésus, j'aurais jamais... C'est la dernière chose à laquelle j'aurais jamais pensé. Et là, elle arrive dans le groupe de maison et elle entend parler de Jésus et elle vit une atmosphère d'amour. Et elle vit une conversion extraordinaire. Et voilà, je raconte ça dans le livre. Et cette semaine, elle nous dit au groupe de maison, elle nous dit, j'ai un petit témoignage. Un petit témoignage. Je me méfie toujours quand elle dit un petit témoignage. Et elle me dit, ben, j'ai une de mes amies de boulot qui m'a demandé si elle pouvait venir visiter ma maison. Alors, elle est venue, puis elle est venue chez moi. Alors, c'est beau chez toi, c'est incroyable comme tu as fait, comme tu as tout décoré. C'est une femme qui a beaucoup de goût. Et puis, à un moment, nous raconte-t-elle, à un moment, elle dit, mais son ami lui dit, est-ce que je peux te poser une question? Oui, vas-y, mais qu'est-ce qu'il y a chez toi? Qu'est-ce que tu as en plus? Parce que, et elle n'a jamais, au travail, elle ne parle pas de Jésus, jamais, pas un mot. Mais cette collègue lui dit, mais tu es différente. Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Et Cindy, elle m'a dit, ben, j'ai été pris de court et j'ai osé. J'ai dit, eh ben, c'est la présence de Dieu. Et je me suis dit, elle va se sauver en courant. Et elle a voulu en savoir plus. On a passé tout le reste de la soirée à parler du Seigneur, etc. Et j'ai dit, mais ça, c'est tellement, tellement idéal. Parce que parfois, tu rencontres des gens qui témoignent de Dieu à tire-larigot et tu as juste envie de leur dire, bon, je ne peux pas t'empêcher de témoigner, mais s'il te plaît, si on te demande si tu me connais, je t'autorise à ne pas répondre à la question. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui parlent de Dieu et leur attitude contredit leur discours. Et Cindy, c'était exactement l'inverse. Elle ne parlait pas, mais les gens lisaient le cinquième évangile à travers elle. Pas à travers ses paroles, à travers son attitude, à travers son expression seulement. Comment tu fais pour, alors que les collègues, elles te critiquent, comment tu fais pour jamais critiquer? Comment tu fais? Et elle a pu témoigner. Nous sommes le cinquième évangile. Les gens vous regardent. Vos voisins de palier, ils vous regardent, ils vous auscultent, ils vous scrutent. Alors quand les gens savent que tu es chrétien, alors ils scrutent encore davantage. Et ça, c'est tellement important d'être ce témoignage. Je voulais vous parler de donner aussi ce témoignage ici de la survie à la vie. C'est une femme de Sorvilliers, juste à côté de Malraix, une personne qui est née dans les milieux Église pour Christ, anciennement Cœur Pur, dans le légalisme, la religiosité jusqu'au bout des ongles, et qui a vécu une vie de douleur, de misère et de souffrance. Malgré qu'elle était engagée pour le Seigneur, elle a été missionnaire, elle a souffert, elle n'a pas connu en 50 ans de vie un moment de douleur à zéro, jour et nuit, H24, jamais douleur à zéro. Et elle a un témoignage hallucinant de résilience et de foi malgré tout. Et il y a 3-4 ans maintenant, elle a lu le livre Libéré, on a été en contact avec elle, et elle a découvert l'évangile autrement. Elle a découvert un évangile qu'elle ne connaissait pas. Même qu'elle a fait une école de mission, qu'elle a été missionnaire, elle a découvert un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Preuve en est qu'on a le même Dieu. Quand vous discutez avec des catholiques ou autres, on dit on a le même Dieu. Oui, amen, on a le même Dieu. Mais on n'a pas la même connexion, n'est-ce pas? On n'a pas le même opérateur. Il y a des connexions qui sont plus directes que d'autres. Et cette femme, elle a ce témoignage de la survie à la vie. C'est vraiment marquant. Comment Dieu Dieu l'a conduite, je vous laisserai découvrir. Et je voulais juste terminer, je vois que le temps coule très rapidement ici chez vous. Je voulais juste terminer avec la fin du verset tout à l'heure, « Si toutefois nous souffrons avec lui ». Parce que toutes les promesses que nous avons auparavant, enfant de Dieu, héritier du Père, co-héritier avec Christ, sont conditionnelles à la fin du verset. Si toutefois nous souffrons avec lui, et qu'est-ce que ça veut dire? Si nous souffrons avec lui, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que pour être héritier, il faut souffrir, il faut se mortifier, il faut être... Plus tu es dans l'épreuve, plus tu vas... je participe aux souffrances de Christ, c'est bien, tu es dans la... Tu es dans les problèmes et tout ça, c'est bien, continue, persévère dans les problèmes. Personnellement, je ne le vois pas du tout comme ça. Je crois que si toutefois nous souffrons avec lui, je pense que ce qui a conduit Christ dans la souffrance, c'est quoi? C'est son obéissance. Son obéissance l'a conduit à la souffrance. Il a obéi à quoi? Il a obéi à la parole de Dieu, à la voix du Père. Il ne voulait pas aller à la croix, Jésus. Hein? Il savait exactement ce qu'il attendait. Et dans le jardin de Gethsémané, vous le savez, il suait ses grumeaux de sang. C'était un combat. Un combat parce qu'il était pleinement homme à ce moment-là. Il était pleinement homme. Il était pleinement dans cette même identité d'Adam en tant que second Adam, second homme. Il était pleinement dans la même situation que le premier qui a eu le choix. C'était le premier, c'était juste tu manges ou tu ne manges pas. Il n'y a pas... Premier, dans le jardin d'Éden, il n'a pas sué des grumeaux de sang pour savoir s'il devait croquer ou pas le fruit défendu, n'est-ce pas? Mais Jésus était pleinement homme, pleinement conscient de ce qu'il attendait et de la décision qu'il avait à prendre. Et il a obéi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je crois que cette condition-là, d'être héritier, de pouvoir bénéficier de l'héritage terrestre que Jésus nous a acquis à la croix, la seule condition pour cela, c'est l'obéissance. L'obéissance à quoi? À la parole de Dieu. Et ça, mes amis, c'est notre défi au quotidien. De marcher selon l'Esprit. Soit je marche selon l'Esprit, soit je marche selon la chair. Marcher selon la chair, c'est quoi? Marcher selon les circonstances présentes, selon ce qui se passe devant moi, selon marcher par la vue, marcher par l'influence du monde, marcher par mes sentiments, mes émotions, mes envies. Ça fait partie de la chair. Marcher par les circonstances présentes et influencées par les circonstances passées, n'est-ce pas? Quand tu as des expériences négatives du passé qui contredisent ce que la parole de Dieu dit, quand tu as tes pensées qui te disent « t'as essayé combien de fois, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais marché. » Abraham, il a essayé combien de fois avant d'avoir Isaac? Ça n'a jamais marché. T'es trop vieux de toute façon. T'es trop vieux maintenant, oublie. C'est pour les jeunes ça, allez. T'es retraité. Profite de ta retraite. C'est pour les jeunes. Abraham, profite de ta retraite. À 75 ans, quitte tout ce que tu as. Quitte ta famille, ta zone de confort, ta sécurité. Quitte pour aller où, Seigneur? Où je te montrerai? Pars d'abord, je te montrerai après. Ok. Obéir à la parole de Dieu, mes amis. Obéir à la parole. Et c'est ça notre défi, c'est mon défi quotidien. Je sais que quand je suis aligné à la parole, j'aime bien ce terme, s'aligner à la parole de Dieu. aligné à la parole, quelles que soient les circonstances, même si elles sont contraires, même si je suis bousculé, je suis attristé, je ne comprends pas, il y a des choses qui m'arrivent dans ma vie, je ne comprends pas. Et plutôt que de dire pourquoi ceci, pourquoi ça, je m'accroche à la parole de Dieu. On s'accroche à la parole de Dieu. Quand les circonstances sont contraires, on est dans notre mission avec Jocelyne, on est extraordinairement béni. On est spectateur de ce que Dieu fait avec nous. On dit, mais qui sommes-nous, nous, des petits rien du tout, de petits jurassiens, là, insignifiants, pas doués, rien. Qui sommes-nous pour que tu aies pu faire ça avec nous? Mais d'un autre côté, il y a des choses, on se dit, mais on ne comprend pas pourquoi on a deux garçons qui n'ont jamais trouvé, jusqu'à présent, qui n'ont pas trouvé l'âme sœur et qui désespèrent. Et leur fils aîné, leur frère aîné, il a désespéré pendant 10 ans. On ne demande même pas pourquoi. On proclame la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Psaume 20. 26, 8, 6, 7, je crois. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Quand vous avez votre fils adulte qui vient, qui hurle dans vos bras, qui hurle, j'en peux plus, papa. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, je le loue par mes chants. Fils, je ne peux rien te dire d'autre. Je m'accroche à la parole de Dieu. Il l'a fait pour ton frère aîné, il le fera pour toi. Obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Je ne vais pas aller plus loin. Mes amis, j'aimerais juste... vous rappelez quelque chose, vous n'avez peut-être jamais percuté là-dessus, mais depuis le Jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, le monde tourne avec deux questions. Enfin, pas deux questions, une question et une réponse. Une question et une affirmation. Il faut savoir de quel côté on se situe. La question, c'est, dans Genèse 3, quand Satan dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit ? Dieu a-t-il réellement dit ? Aujourd'hui, quand tu parles de la Bible à tes voisins, tes amis qui ne connaissent pas le Seigneur, ils disent, c'est des hommes qui ont écrit ça. C'est des hommes qui l'ont écrit. Ça veut dire, Dieu a-t-il réellement dit ? Alors, ils ne posent même pas la question. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Mais c'est la même question, Dieu a-t-il réellement dit ? Et l'affirmation, c'est ces trois mots, il est écrit. Et quand je dis il est écrit, c'est ce que, vous le savez, c'est ce que Jésus a répondu à Satan qui le tentait avec la parole de Dieu. Il est écrit, c'est se baser sur la parole de Dieu. Et j'aimerais vous inviter, mes frères, mes sœurs, on est dans une guerre spirituelle. Notre épée, notre arme, c'est l'épée de l'esprit, et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle doit être dans ta bouche. Dans ta bouche, pour qu'elle soit dans ta bouche, il faut qu'elle ait été devant tes yeux d'abord. Il faut la lire, mais le but, c'est pas de la lire. Le but, c'est de la méditer jour et nuit, de la ruminer. De la ruminer et que quand tu la rumines et que tu as affaire à une tentation, à une épreuve, à quoi que ce soit, tu sors l'épée. Si vous imaginez un chevalier ou je sais pas quoi qui sort l'épée, ça fait un bruit, n'est-ce pas? Parce que le fourreau de l'épée il est un peu en ferraille, l'épée aussi, elle est en acier, ça fait chut, hein, n'est-ce pas? Et ce bruit-là, spirituellement, tu sais ce qu'il dit, ce bruit spirituellement? Il dit, il est écrit. Le ch, c'est il est écrit. Alors quand tu as sorti l'épée, tu t'es encore pas battu, mais tu as sorti l'épée et là tu proclames la parole de Dieu. Et j'ai expérimenté X fois dans des confrontations avec le monde des ténèbres parfois. J'en ai pas vécu beaucoup, mais certaines qui étaient très 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 très, très particulières. Il est écrit, prononcez la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu doit s'imprimer en nous. Méditer, ruminer la parole, être saturé de la parole de Dieu. Les Colombiens dont je parlais tout à l'heure, ils utilisent ce terme. Saturer mes pensées de la parole de Dieu. Saturer mes pensées de la vérité pour que plus la parole de Dieu demeure dans tes pensées, plus la vérité s'enracine dans tes pensées, moins il y a de place pour le mensonge. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est tellement important. On va... prendre la Sainte Cène, c'est pas vrai, on va pas finir à 15h, quoique, peut-être un petit after, pour nous préparer à la Sainte Cène, j'aimerais vous faire ce chant qui s'appelle « Si mon peuple ». Vous connaissez ce verset de 2 Chroniques 7,14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face. » C'est déjà un bon début, mais la fin c'est « S'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et je guérirai son pays. » Est-ce qu'on peut, dans ce temps... de préparation de Sainte Cène, peut-être il y a peut-être quelque chose à trouver ou à retrouver. Seigneur, voilà où j'en suis, j'ai plus ce contact avec ta parole, j'ai plus cette obéissance, je me suis laissé peut-être dévier gentiment hors de ton sentier. Je veux revenir, Seigneur. Je veux être prêt. Je veux marcher tous les jours, l'épée à la main. Être prêt, revenir à ta parole, revenir à toi, revenir comme un guerrier, un soldat. Les gens autour de moi ont besoin que je sois fort, que je sois équipé, que je sois prêt au combat. Si mon peuple.